15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Comment profiter de l'été pour prendre soin de sa santé et de son bien-être? Pendant une heure, nous allons vous informer, partager des conseils et échanger avec notre invité. Dans ce studio, pour m'accompagner, on retrouve aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez juste avant 16h de sexologie et nous parlerons aussi de santé au quotidien.
Bah oui, côté sexo, nous verrons en fin d'émission comment trouver l'âme sœur, figurez-vous. Mm-hmm. Et côté prévention santé, on parlera des méduses, des vives, des oursins.
Voilà, ça sent la plage et l'évasion. Et notre dossier du jour est justement consacré aujourd'hui aux vacances avec nos ados. Car l'été est souvent l'occasion pour eux d'expérimenter l'autonomie, les vacances entre copains, la vie amoureuse. Alors comment accompagner nos ados sans trop stresser? Comment leur fixer un cadre en les laissant vivre? On en parle aujourd'hui avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget. À 15h40, nous retrouverons aussi notre coaching bien-être et psycho. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec une spécialiste des transitions professionnelles pour prendre un peu de recul sur son travail durant l'été. Voilà pour le programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre par quelques conseils santé essentiels pour l'été. Aujourd'hui, Damien, on parle du monde du monde sous-marin, de la plage. Vous nous emmenez à la plage.
Oui, c'est ça. Parce qu'à la plage, il y a effectivement des dangers qu'on ne soupçonne pas toujours. Prenez par exemple la vive. C'est un poisson qu'on trouve tout autour du littoral français. Il y en a pour tout le monde. C'est un poisson qui vit enfoui dans le sable et alors à une très faible profondeur. Le problème, c'est qu'il laisse sa nageoire dorsale dépasser. Mmh. Et si vous marchez dessus ou si vous posez la main dessus, par exemple, eh bien,
ça
cette nageoire... Bah voilà, exactement, parce que non seulement elle se dresse, mais en plus, il y a comme des aiguillons et elle vous injecte son venin. Et quand je dis ça fait mal, attention, ça fait même très très mal. On peut avoir des gens qui font des syncopes. Ça peut même être source de noyade. Vous voyez à quel point ça peut être dangereux. C'est pour ça que dès qu'on a une piqûre de vive, il faut vite sortir de l'eau. Alors, on va rester nauséeux probablement pendant une bonne demi-heure.
Ah oui, quand même.
On peut même avoir des réactions générales avec des vertiges, des vomissements, des maux de tête. Vous voyez que c'est quand même sérieux quand on se fait piquer par une vive.
Et je crois que ça peut s'infecter en plus.
Exactement, on peut faire des infections secondaires. C'est pour ça qu'on va toujours nettoyer, désinfecter soigneusement la plaie. Puis on va aussi, bien sûr, vérifier que vous êtes à jour de votre vaccination antitétanique.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Alors, le venin de la vive est thermolabile, ça veut dire qu'il est sensible à la chaleur. Alors, il faudra agir vite, c'est sûr, hein, dès que la personne sera sortie de l'eau. Alors, pour faire ça, il faut une température quand même assez élevée. Ça veut dire qu'il va falloir approcher, par exemple, une cigarette incandescente de la peau. Attention, il ne faut quand même pas brûler la peau. Voilà. On peut aussi mettre le pied dans l'eau, hein, si on a une bassine et un centre juste à côté où on peut mettre de l'eau. Alors, il ne faut pas dépasser 45 degrés, là aussi, il ne s'agit pas de se brûler. Mais un quart d'heure dans l'eau, ça peut aussi soulager. Ou alors, on peut pratiquer encore le choc thermique. Choc thermique, ça veut dire qu'on met d'abord la source de chaleur pendant 2 minutes, par exemple, d'approcher la cigarette, et puis après, aussitôt, des glaçons à travers un linge, toujours pas directement sur la peau, pour créer ce choc thermique.
Et on a aussi une question de Nicole qui aimerait bien éviter ce genre d'aventure.
Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si au bord de la mer, à la plage, il fallait mettre des chaussures de protection, parce qu'on m'a parlé de piqûres de vives, les vives qui se cachaient dans le sable. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Bon, alors d'abord, c'est vrai que ça arrive pas tous les jours. Hein. Et puis franchement, c'est vrai que des chaussures dans l'eau, sur la plage, c'est pas vraiment très pratique. Alors à la limite, quand vous êtes dans une zone de rochers, mais pour d'autres raisons, on en parlera dans un instant, les oursins, ça peut valoir la peine. Alors ceci dit, effectivement, si vous avez un jeune enfant et que ça vous rassure et que ça évite ce risque, eh bien des chaussures en caoutchouc, pourquoi pas.
Vous nous parliez des oursins, Damien. On en trouve partout dans le monde?
Oui, on en trouve partout.
Et si on marche dessus, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, autant le dire tout de suite, ça va être embêtant pour plusieurs raisons. D'abord, la première, évidemment, c'est que ça fait mal. La seconde, c'est qu'il y a là aussi un risque d'infection, donc il va falloir bien désinfecter et puis vérifier aussi, encore une fois, que la vaccination antitétanique est à jour. Et puis, pas hésiter à consulter un médecin. Si la zone devient rouge, enflée, reste douloureuse dans les 24 heures qui suivent, il faut quand même consulter. Et puis, la troisième raison, sans doute celles que connaissent le mieux les plongeurs notamment, c'est que les épines d'oursin sont très difficiles à enlever, hein, bah notamment parce
qu'il ne faut pas les casser.
Et elles cassent très très facilement ces épines d'oursin. Il ne faut pas les casser. Alors effectivement, il va falloir prendre son temps. Hein, prendre son temps, ça veut dire qu'on va...
Quelle est la méthode?
Alors une des méthodes, parce qu'il y en a des dizaines, mais en tout cas une des méthodes les plus reconnues, c'est d'abord de tremper son pied dans de l'eau chaude pour que la peau ramollisse bien. Voilà, hein, quand la peau sera bien ramollie, ça sera plus facile d'extraire les épines. Alors vous pourrez aussi gratter avec une petite aiguille effectivement là aussi hein, que vous aurez passé sous une flamme pour bien la désinfecter par exemple la surface cutanée de la peau sans creuser trop profond. C'est une couche cornée, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerf, ça fait pas mal du tout. Ça dégagera un petit peu l'endroit que vous devez nettoyer. Quand vous avez lavé le pied, vous avez mis un petit peu de daquin, hein, soluté de daquin dans l'eau, comme ça, ça désinfecte au passage. Voilà, ouais. Vous aurez aussi la désinfection. Et puis l'opération d'extraction, bah, ça c'est long, hein, c'est délicat. Il va falloir un minimum de matériel. Si vous n'en avez pas, notamment je pense à une pince à épiler, évidemment, bah, il vaut mieux aller voir un médecin pour retirer les épines. Et puis les épines, quand on les retire, il faut vraiment tirer dans l'axe, hein, sinon ça casse. Donc là aussi, c'est vrai que c'est une opération un peu délicate.
Il y a une méthode traditionnelle aussi, je crois.
Alors, il y a des méthodes traditionnelles. Bon, je vous vois venir tout de suite.
C'est l'histoire de l'urine.
Oui, ça ne sert à... Non, c'est pas la peine. Disons que ça peut dissoudre, effectivement, hein, ça peut dissoudre le carbonate de calcium dont sont formées ces épines. Mais on a exactement la même chose avec du vinaigre. C'est quand même plus pratique, verser du vinaigre ou du jus de citron sur les piqûres, hein, plusieurs fois par jour. Et puis, vous mettez des compresses imbibées. Ça peut suffire à marcher. Ou alors, si vous avez simplement une couche de vaseline et puis un pansement occlusif par au-dessus, eh bien, au bout d'un moment, la peau va pousser et ça va faire sortir aussi les épines.
D'ailleurs, l'urine, on en parle aussi pour les brûlures de méduses.
Oui, alors les brûlures
ça
de méduses.
Ça sert à quelque chose pour les méduses.
Alors là, non, c'est inutile. Hein, là, complètement inutile. Et là aussi, le vinaigre, par contre, est inutile aussi. Hein, ça entraîne. Au contraire, c'est pire. Si vous mettez du. Il ne faut surtout pas mettre de vinaigre. Il ne faut surtout pas mettre non plus d'eau douce. Si vous avez une bouteille d'eau douce, vous dites, tiens, je vais nettoyer à l'eau douce. Non, surtout pas. Vous allez faire éclater les capsules urticantes. Et ça, c'est la cata parce qu'ils contiennent du venin. Ça va être encore pire. Donc, vous mettez plutôt un peu de sable dessus ou de la mousse à raser. Tiens, si vous en avez, ça peut arriver.
À la plage, je sais pas.
Ben, ça peut arriver. Et vous gratterez une fois que ça a séché le sable, comme ça, pour enlever toutes ces particules urticantes. Enfin, pour soulager la douleur, on peut aussi tremper là aussi dans l'eau très chaude, sans se brûler pendant une demi-heure, ou mettre des glaçons, évidemment, si on en a dans un linge, pas directement sur la peau.
Merci Damien Mascret pour tous ces conseils. Europe 1. À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré aux vacances de nos ados. Comment rester connecté à ce grand enfant qui aspire à l'autonomie mais qui a besoin d'être rassuré? Comment concilier les copains et la vie de famille? Comment encadrer et lâcher du lest? On en parle dans un instant avec le docteur Stéphane Clerget.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour. Bonjour Stéphane Clerget.
Bonjour Anne Le Gall.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre à Paris et vous avez notamment écrit avec Estelle Denis un livre qui s'intitule Ado, le décodeur, un livre de questions-réponses très pratique. Alors, il y a quelques mois, c'est aux éditions Le Duc, je le précise, il y a un sondage Opinionway qui indiquait que pour 63% des Français, partir en vacances avec un ado, c'est compliqué. Donc c'est pour plus d'un parent sur deux parce que l'adolescent est trop râleur, trop accro à son portable. En plus, il traîne des pieds quand il faut faire une activité. Bon alors, ça veut dire aussi que dans 40% des cas, ça se passe bien. Hein.
Mais, quand ils sont en colo.
quand ils sont loin peut-être. Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres, Stéphane Clerget?
Non, c'est des choses qu'on entend, mais c'est vrai que les vacances, c'est l'occasion de cohabiter avec son adolescent, son adolescente. Alors oui, heureusement, il y a eu le confinement. Donc là, j'imagine que ces vacances vont être un peu différentes. On en parlera peut-être. Mm-hmm. Mais forcément, c'est le temps où s'expriment véritablement les difficultés éventuelles des relations entre parents et enfants, et notamment les questions d'autonomie, de limites, de règles à respecter ou non, et puis aussi les questions d'humeur. C'est vrai qu'à l'adolescence, nos humeurs se modifient. L'enfant n'est plus le même. Il devient un peu un étranger.
Alors justement, puisque ça revient dans ce sondage, comment répondre à la râlerie des ados?
Ils ne râlent pas tous.
Bon, visiblement, d'après le sondage, il y en a une
alors,
bonne part.
Alors étonnamment, ils ne se rendent pas compte qu'ils râlent. Il faudrait presque les enregistrer. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas. Comme quand ils parlent très fort, ils ne s'entendent pas. Comme quand ils disent des gros mots. Ils ne contrôlent pas forcément. Donc c'est bien de leur dire... pour qu'ils s'en rendent compte. Mmh.
Mais alors comment on leur dit? Donc pas trop de cynisme non plus.
Ben, justement, en ne râlant pas. Parce qu'ils râlent aussi parce que nous, on râle.
Mmh. Et... le mimétisme.
Donc justement, on leur répond très, très, très poliment et puis on leur fait simplement entendre, comme à des enfants de 4 ans. On leur dit, tu sais, évite de parler comme ça, c'est pas très, très agréable. Donc évidemment, ça ne va pas être efficace du premier coup. Mais c'est l'éducation, c'est la répétition.
Alors ça peut être peut-être dû aussi à un manque de sommeil. Un ado fatigué peut avoir tendance à râler. On sait que les ados ont besoin de dormir beaucoup. À partir de quelle heure est-ce qu'il faut stopper la grasse mat?
Ça dépend de l'heure à laquelle ils sont couchés. En tout cas, ils ont besoin de 9 heures de sommeil. C'est vrai que pendant les vacances, on peut autoriser un coucher plus tardif dans la mesure où ils font des activités, notamment sociales, avec des amis. Maintenant, si c'est pour regarder la télé ou faire des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin, ça n'a pas grand intérêt pour eux. Donc, on peut imposer un coucher plus précoce. Mais vous avez raison, la fatigue chez l'ado, c'est une réalité, parce qu'ils se couchent tard, mais aussi tout simplement parce qu'ils grandissent et que c'est très fatigant de grandir.
Damien Mascret.
Oui, c'est d'ailleurs important de préserver leur sommeil. On leur dit tout au long de l'année, il ne faudrait pas qu'on fasse l'inverse pendant les vacances et qu'on les prive de sommeil, c'est sûr. En même temps, dans le livre, vous suggérez d'essayer de caler des activités en fin de matinée. En fait, vous voulez remplacer finalement cette langueur de la matinée par une activité positive.
Oui, après, ce n'est pas toujours facile de trouver des activités qui pourraient les intéresser. Ce qui est certain, c'est que c'est bien de leur proposer des activités parce qu'ils n'ont pas forcément d'idées et de sentir celles à laquelle ils s'opposent le moins. C'est toujours pas mal, finalement, de les inscrire, par exemple, dans une activité sportive un petit peu régulière. Ça aide le lever. On en trouve maintenant un petit peu partout, dans toutes les communes de France. Ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi pas de proposer aussi une activité commune autour du sport. C'est en général ce qu'il y a de plus simple avec un des parents.
Alors, parmi les autres points difficiles pour les parents, il y a la question du portable, des écrans. Quels sont les arguments qui font mouche auprès d'un ado pour l'inviter à lâcher un petit peu son portable ?
Ben, de parler de nos lives, de leur suggérer que la vie normale d'un adolescent, c'est d'être avec des adolescents et justement de ne pas être devant un écran. C'est le seul argument un peu valable pour eux, parce que pour le reste, ça ne fonctionne pas vraiment. Et d'évoquer justement le plaisir qu'ils pourraient avoir ou l'apport dont ils pourraient bénéficier, par exemple, d'autres activités. L'idée, c'est plus de proposer d'autres activités pour les aider à décrocher de ces écrans. Et encore une fois, je radote, mais les activités sportives pendant les vacances, c'est vraiment de très bonne aloi.
Damien ?
Oui, vous avez souligné effectivement à l'instant le fait qu'ils avaient envie d'être avec d'autres ados, des gens de leur âge, comme on dit toujours. En même temps, il y a cette tentation ou cette hésitation ou ambivalence des parents parfois de se dire, après tout, est-ce qu'il faut que je passe plus de temps avec mes enfants ou au contraire, est-ce qu'il faut que je les laisse tranquilles ? Quelle est la bonne distance ?
Alors à la fois, ceux qui sont tout le temps dehors, à l'extérieur, on a envie de passer du temps avec. Et à la fois, quand on a des ados qui restent tout le temps à la maison, enfermés, collés à nous, collés à leur écran, ce qui est un petit peu la même chose, eh bien, on s'en inquiète et on a parfois un petit peu raison. Donc, l'idée, c'est de les accompagner, et de garder les temps un peu communs, comme les temps de repas. C'est-à-dire qu'on privilégie ces temps-là.
Donc, de l'autonomie et puis des moments de rencontre.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'un ado attend de ses parents en vacances, en vrai ?
Il attend que ses parents passent de bonnes vacances, parce qu'il se préoccupe de ses parents, contrairement à ce qu'il laisse paraître. Et il est content quand ses parents sont contents et s'amusent en dehors de lui. Donc les parents sont un peu... faut qu'ils aillent bien, faut qu'ils s'entendent bien. Ils sont un petit peu les gardiens de son enfance. On est un peu un pilier. Mmh. Et lui, ça lui permet du coup d'aller un peu au dehors, aller à l'extérieur serein.
On reste ensemble, docteur Stéphane Clerget. Nous allons poursuivre cet échange dans un instant.
Europe 1.
Et on va parler des sujets de stress récurrents chez les parents d'ados, notamment pendant les vacances, la peur des accidents, l'excès d'alcool, les rapports sexuels non protégés. Les parents ont-ils raison de s'angoisser autant ? On voit tout cela dans quelques minutes avec notre invité.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Bonjour Chantal.
Encore vous, Franck Ferrand.
Eh oui, en faisant le tour de la France cet été, j'ai vu partout des vérandas et des pergolas à Kéna. J'ai fait des recherches.
Oh,
et j'ai vu qu'à Kéna s'adaptait à tous les habitats longères, basques, contemporaines. Vous le saviez ?
Évidemment, je le savais. Je faisais déjà les pubs à Kéna, vous n'étiez pas né.
À Kéna, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Coton-tige les bains.
La roche mégot.
Solvant sur champ.
Oh, gobelet la prairie.
Godasse sur mer.
Pour que ces lieux n'existent jamais. Les 25, 26 et 27 septembre 2020, participez aux journées Nettoyons la nature, la grande opération de collecte de déchets, près de chez vous et partout en France. Inscrivez-vous vite sur nettoyonslanature.leclerc.
Bidon la forêt.
Canette plage.
Leclerc.
Inscription dans la limite des stocks disponibles. Modalité sur nettoyonslanature.leclerc.
Spitzberg, passage du Nord-Est, Islande, Kamtchatka et Kouril, cet été embarqué avec Ponant à la découverte de l'Arctique. Équipage français, gastronomie, sortie et débarquement en Zodiac en compagnie de guides naturalistes. Vivez l'expérience authentique et raffinée d'une expédition à bord d'un yacht Ponant. Réservez dès maintenant votre croisière au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et Bien-être sur Europe 1. Nous parlons aujourd'hui des vacances avec nos ados. Nous sommes toujours en studio avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et avec notre invité du jour, le docteur Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre à Paris. On parle des ados. Alors, le temps de l'adolescence, c'est aussi celui souvent des premières fois, des expérimentations, parfois des prises de risques, et ça, ça angoisse beaucoup de parents. Est-ce que les parents ont raison de s'inquiéter autant quand un enfant part, par exemple, avec des copains en vacances, seul en autonomie pour la première fois?
L'inquiétude, ça n'a pas forcément à voir avec la raison et puis ça ne protège pas. Donc, bien sûr que notre rôle avec les ados, c'est de les protéger. C'est-à-dire, s'il y a bien un rôle des parents avec les ados pendant les vacances, c'est de prévenir les accidents et d'assurer leur sécurité physique, mais affective aussi et morale. Donc oui, il y a des informations à donner, il y a rappeler les risques. On croit que les ados savent tout. Non, d'abord, ils ne savent pas forcément tout, les risques. Et donc, c'est important de les dire, de prendre le temps de les dire, de parler effectivement des maladies sexuellement transmissibles, de la grossesse aussi, il n'y a pas que les MST, de l'alcool qui fait faire n'importe quoi, et puis du cannabis qui est quand même très, très consommé par les jeunes aujourd'hui. Et puis des accidents, on parlait tout à l'heure des vives, des choses comme ça, les accidents de la nature aussi. Hein. Nos petits citadins qui débarquent à la nature. Oui, il n'y a pas que les deux roues, il y a des falaises, il y a des choses comme ça. Donc oui, il faut aborder ça et c'est la condition de l'autonomie.
On parlait de la sexualité des ados il y a quelques instants. Est-ce que les parents sont les mieux placés pour donner une information là-dessus ou est-ce qu'il est mieux qu'ils renvoient vers des sites internet, vers des organismes indépendants, vers un médecin?
Pendant les vacances, c'est difficile de trouver d'autres interlocuteurs. Je pense qu'aujourd'hui, les relations parents-ados ont un petit peu évolué. Et je ne trouve pas choquant aujourd'hui qu'un parent à l'aise sur ces sujets-là aborde ces questions-là, évidemment avec certaines délicatesses, hein, sans être intrusif.
Alors, c'est-à-dire
on parle du général, on ne parle pas de l'individuel et d'un tel ou d'un tel et de... oui, on ne dit pas « tu » avec ta petite copine. Je te rappelle que l'usage des préservatifs, je sais que tu connais, mais est-ce que tu en as ? Je te rappelle qu'en soirée, vaut mieux pas boire avant d'avoir une relation sexuelle, parce que sinon, on laisse faire. Je te rappelle aussi, important aussi aux garçons, qu'aujourd'hui, en 2020, on demande l'autorisation pour tout. On demande l'autorisation pour embrasser, on demande l'autorisation pour caresser. On demande à chaque étape de la première relation... Il faut demander l'autorisation et que s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire non.
C'est clair. Damien Mascret, on rappelle que vous êtes médecin sexologue. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
J'adhère complètement. Hein, effectivement, le consentement doit être renouvelé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une partenaire ou un partenaire est d'accord pour s'engager dans l'acte qu'il est d'accord pour aller jusqu'au bout et tout faire. Il a le droit à chaque moment de refuser ou d'accepter des choses. Et je pense aussi que les parents ont un rôle important à faire parce qu'aujourd'hui, combien de parents sont au courant effectivement de la pilule du lendemain? Comment on fait en pratique pour s'en procurer une? Est-ce qu'ils savent qu'on a jusqu'à 5 jours après un rapport non protéger éventuellement, même si c'est toujours mieux quand c'est proche du rapport, pour prendre la pilule du lendemain. Je pense que c'est leur rôle de se renseigner, ne serait-ce que pour dire à leur enfant « Tiens, tu sais que pour toi et tes copines, tu devrais leur rappeler ou tes copains leur rappeler ça. » C'est pareil pour le traitement post-exposition. Beaucoup de parents et d'enfants, d'ados, ne savent pas qu'effectivement, après un accident de préservatif ou un rapport non protégé, mais on peut dire accident de préservatif, eh bien, on peut très bien aller dans n'importe quel service d'urgence 24 heures sur 24 et on aura pendant les... Alors, idéalement, dans les 4 heures qui suivent, mais jusqu'à 48 heures, on peut avoir un traitement post-exposition qui évite d'attraper le virus du sida. Donc, c'est des choses que les parents doivent savoir pour les partager avec leurs ados, quitte à ce que les ados les partagent avec leur père.
Ado. Alors, tout est noté. Parmi les prises de risque, on parlait de l'alcool, de la drogue. Alors, il y a une question dans votre livre qui est formulée de façon très directe par Estelle Denis, avec qui vous avez coécrit ce livre. « Mon enfant, mon ado est rentré ivre, dois-je l'engueuler ?» demande Estelle Denis. Et vous, vous dites « c'est inutile ».
Oui, bah d'abord parce qu'il n'est pas en état d'intégrer la culpabilité.
Alors le lendemain, mettons.
Non, l'important, c'était déjà s'assurer de sa santé, parce que l'état d'ivresse, ça peut être dangereux. Hein, donc il faut le surveiller, ne serait-ce que toute la nuit. pour voir s'il lui arrive rien. Et puis après, il faut effectivement discuter du sujet avec lui. Est-ce que c'est une première cuite? Est-ce qu'il y en a souvent? Est-ce qu'il y a des risques que votre ado consomme de l'alcool régulièrement? Comment aider votre ado pour qu'il ne prenne pas d'alcool du tout pendant la soirée? Comment apprendre à dire non à ses camarades? Comme il faut apprendre à son ado que s'il y a un joint qui tourne, il peut le faire passer sans forcément respirer. C'est des choses un petit peu pratiques. Aujourd'hui, il y a tellement dans les soirées de consommation d'alcool et de drogue que c'est très compliqué pour les ados de dire non. Donc la première étape, c'est déjà de leur apprendre à dire non.
Et il faut jouer sur l'argument de santé, de sécurité ?
Oui, de santé. C'est sûr que la santé à long terme, ça ne leur parle pas tellement. Mais de santé immédiate, c'est-à-dire leur dire que personne ne séduit en état d'ivresse. Et que on peut être un petit peu rigolo, mais globalement, on ne séduit pas. Et que beaucoup de personnes se font abuser en état d'ivresse sur le plan sexuel ou sur d'autres plans et passent pour des... au minimum pour des imbéciles, et qu'il y a pour les filles aussi, mais aussi pour les garçons, parfois des risques de viol. C'est plus ces thématiques-là que le cancer, etc., parce que ça, tout ça, ça leur semble un petit peu bien loin. Mais c'est quand même plus facile si nous, parents, on ne boit pas devant eux.
Damien Mascret.
Ouais, grosse question également, est-ce qu'on doit les suivre, les traquer sur les réseaux sociaux, ou en tout cas voir ce qu'ils font, et est-ce qu'on doit aussi même aller jusqu'à les géolocaliser pour les suivre ?
Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut, effectivement, sur les réseaux, il n'y a aucune raison de ne pas jeter un œil. Enfin, surtout s'ils sont jeunes, c'est évidemment pas pareil s'ils ont 18 ans et 12 ans. Enfin, plus ils sont jeunes, évidemment qu'il faut regarder sur les réseaux sociaux, avoir un œil pour voir si, effectivement, ils ne se mettent pas en danger. Et donc, il faut savoir où ils vont. Si on place comment on dit,
vous avez... Alors c'est la géolocalisation par le téléphone, tout simplement.
Voilà, mais on le fait évidemment en accord avec eux.
Il faut qu'ils le sachent.
Et on leur dit, c'est le prix à payer pour l'autonomie.
Et si un ado ne respecte pas les limites qu'on lui a fixées, qu'est-ce qui se passe?
C'est assez fréquent, donc on exprime son mécontentement, et puis il est menacé évidemment de pas avoir la même liberté, quoi. Le prix de la liberté, c'est effectivement de respecter les limites. Puis après, on peut en discuter avec lui. Comment ça se fait que tu as tant de mal à respecter les limites? Est-ce que tu as l'impression que je te considère vraiment comme un petit? Est-ce que tu as l'impression que je suis trop sur ton dos? Et on discute de tout ça.
On va poursuivre cette conversation sur les vacances de nos ados dans un instant avec vous, Stéphane Clerget.
Europe 1.
Et on va parler de leur vie amoureuse, comment se comporter si une rupture est mal vécue, comment s'intéresser aux petits copains, petites copines sans être trop intrusif. Les réponses à ces questions avec notre invité dans un instant.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous parlons des vacances des adolescents. Comment se montrer compréhensif, leur donner confiance en eux dans cette période parfois tumultueuse? Comment faire pour que l'été se passe au mieux pour toute la famille? Nous sommes toujours en studio avec le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre à Paris, et toujours aussi bien sûr avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. On va parler de la vie amicale et affective de nos ados. Alors, c'est sûr qu'à l'adolescence, d'abord, il y a l'apparence physique qui compte énormément, qui peut parfois tourner à l'obsession. Qu'est-ce qu'on doit dire à un ado qui vraiment est obnubilé par son look, qui se trouve trop gros, trop mince, pas assez bien habillé, trop boutonneux, pas assez branché? Qu'est-ce qu'on lui dit?
Des compliments, même si on ne les pense pas. C'est toujours bon à prendre. Et on réalise d'ailleurs qu'on leur fait beaucoup plus de reproches que de compliments, mais il faut aussi les valoriser sur leur physique. Alors évidemment, si c'est des compliments directs de la part des parents, ils n'y croient pas vraiment. Et ça peut parfois les mettre mal à l'aise. Mais du coup, on dit « Ah, un tel m'a dit que... » Donc des compliments rapportés, que ce soit vrai ou pas vrai, selon sa morale. Mais en tout cas, ils n'en ont jamais trop. Et ça leur fait du bien. Et il faut leur dire. Et puis quand ils s'habillent un peu ridicule, ce n'est pas la peine de faire des remarques. S'il y a bien un âge où on peut s'habiller ridicule. Non, ça ne sert à rien. Laissons-les s'habiller comme ils veulent. Après, oui, il y a la question, s'il fait très chaud, on ne va pas mettre 4 pulls au vert. On peut leur faire la remarque. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas grand impact. Donc non, on le laisse s'habiller comme ils veulent pendant les vacances. Hein. Il ne s'agit pas d'aller forcément toujours en jogging à l'école privée où on est inscrit. Hein. Mais pendant les vacances, je pense qu'il faut accorder une certaine liberté vestimentaire et pas d'ironie. Ça ne sert vraiment à rien.
Damien Mastret.
Oui, oui, la thermorégulation des ados, la science a buté dessus, n'a toujours pas compris comment ça marchait. Hein, donc, il faut vraiment être décontracté avec ça. Non, je pensais surtout aux amis, parce que c'est vrai que c'est un âge où, effectivement, il y a un engagement social. On crée, finalement, son réseau, et c'est très important pour les ados. Et je me demandais si c'était une bonne idée de les priver de sortie.
Bah, c'est une punition très, très sévère, mais ce n'est pas les priver de sortie, c'est les menacer de les priver de sortie. Parce qu'il faut bien qu'on ait quelques armes. Donc, mais oui, ils ont besoin de voir du monde. Après, il n'y a pas que les sorties pour se faire des amis. Ils se font des amis à l'école, ils se font des amis la journée, il n'y a pas que le soir. On se fait des amis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en primaire, on se fait des amis, mais qu'à l'adolescence, on prend ses distances avec ces amis-là, parce qu'on change, ils changent. Et donc, on se fait effectivement de nouveaux amis. Et pas toujours ceux qui conviennent aux parents qui peuvent faire face à l'armée.
Justement, quand un ami, on trouve qu'il a une mauvaise influence sur notre ado, est-ce qu'il faut le lui dire ? Est-ce qu'on laisse faire ?
Il faut surveiller. Mais pas forcément le critiquer, parce que ça va renforcer les liens. Ils se font quand même des amis pour se décoller de nous. Mais on garde un œil. Il faut savoir qu'ils sont un peu doubles à ces âges-là. Ils ne savent pas très bien qui ils sont. Et parfois, le petit ange qui se fait ami avec un petit démon, c'est pour que sa part démoniaque soit exprimée par quelqu'un. Et du coup, ça lui évite
ça
lui d'avoir
pas en danger,
à l'exprimer. Il faut discuter de l'amitié. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'amitié ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un ami ? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire ? Et effectivement, comment refuser de suivre un ami qui nous entraînerait dans des expériences dangereuses ou malheureuses ? Je veux bien que tu le fréquentes, mais je te rappelle qu'il y a des choses que je ne veux pas que tu fasses. Voilà. Et si, effectivement, le fréquenter, ça veut dire faire ces bêtises-là, non.
Alors, il y a les amis à l'adolescence, il y a les petits amis aussi. Comment s'intéresser à la vie amoureuse de son adolescent sans être trop intrusif ?
Eh bien, en le questionnant sur la vie amoureuse des adolescents, un peu en général.
Donc, pas sur lui directement ?
Non, jamais. Comment ça se passe, les histoires d'amour à ton âge ? Est-ce que tu es tes amis ?
Qu'on s'intéresse aux copains, en fait ?
Oui. Voilà, et même au sens large, aux adolescents, les gens de 13 ans, les gens de 15 ans, les gens... Et puis on rappelle quand même que la première relation sexuelle, c'est pas avant 15 ans, enfin vaut mieux, c'est l'âge de la majorité sexuelle. On dit que, en tout cas, si on a plus de 15 ans, on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un de moins de 15 ans. On place comme ça les règles qui régissent la sexualité humaine.
Damien Mastret.
Oui, et puis très souvent, les ados nous parlent aussi effectivement de leurs copains ou copines qui, elles, ont des problèmes. Et donc, c'est l'occasion d'aborder des sujets qui pourraient être un petit peu délicats en frontal, en les contournant.
Oui, et c'est vrai que c'est un point important parce que ces questions relationnelles, ils n'ont pas les codes. Donc, nous, on a notre expérience et il faut en parler. C'est compliqué, les relations humaines, amicales, amoureuses, entre ceux qui jouent, qui font croire qu'ils sont amoureux et qui finalement plaquent le lendemain, ceux qui s'accrochent et on ne se rend pas compte qu'on peut leur faire du mal. Enfin, il faut qu'ils se protègent, mais aussi il faut veiller à ce qu'ils ne fassent pas souffrir les autres, parce qu'il y a des joueurs quand même. Et les ruptures sentimentales, c'est quand même une des causes de suicide. Une des principales causes de suicide à l'adolescence.
Et justement, quelle doit être l'attitude des parents si on voit que l'adolescent a du mal à se remettre d'une rupture ?
Ah ben, on prend ça très, très sérieusement. Ça peut aller jusqu'à consulter, si on le sent déprimé. C'est grave, un chagrin d'amour à l'adolescence. Il faut être... Faut faire attention.
Mais donc on demande carrément à l'ado.
Comment ça va ? Écoute, je sens bien que t'es triste. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas ? Et puis on fait 1000 hypothèses jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne. Et là, il dira oui ou il dira non.
Damien Mascret.
Oui, de toute façon, de façon générale, il ne faut pas sous-estimer l'intensité des sentiments et des émotions à cet âge-là. C'est presque, on dit parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Clerget, que c'est presque plus vif que quand on est adulte.
Ah oui, clairement, Damien, c'est un âge où effectivement les émotions sont là, nouvelles, intenses, avec un corps sexué, c'est des pulsions tout à fait nouveaux et évidemment qu'on ne maîtrise pas ça. Il faut quelques années que le cerveau mature pour qu'on puisse maîtriser ça. Donc c'est intense, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'il y a les grandes joies et les grandes douleurs et qu'on peut faire aussi un petit peu n'importe quoi. Il faut vraiment considérer que sur ce terrain-là, l'ado n'est pas encore effectivement un adulte, que c'est pas parce qu'il a un corps sexué qu'il peut gérer tout ça. Et si nous, parents, on a un rôle auprès des ados, c'est bien pour les envelopper, les encadrer, les accompagner, justement sur cette frénésie émotionnelle propre à l'adolescence.
Damien Mascret.
Alors, il y a 2 ans, des chercheurs australiens avaient publié une étude où ils appelaient finalement à revoir un peu la définition de l'adolescence, dans le sens, ça ne s'arrête pas autour de 18-19 ans, mais ça va même jusqu'à 24-25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben ça, ils font référence à la maturité de la partie frontale du cerveau, qui est la dimension de régulation de ses émotions, et qui fait qu'une fois que c'est mature, on est moins impulsif, on accepte mieux les frustrations, et on est moins pris par ses émotions. Donc oui, à ce titre-là, c'est vrai, c'est à 25 ans que la partie antérieure du cerveau est bien mature. Cela dit, les psychiatres français les ont précédés, puisque moi, quand j'étais jeune, on me disait que la pédopsychiatrie, c'était de toute façon jusqu'à 25 ans. Et là, la France se différenciait justement des pays anglo-saxons. Donc là, les psys anglo-saxons viennent donner raison aux psys français.
Merci beaucoup à vous, docteur Stéphane Clerget, d'être venu nous voir.
Merci.
Et pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, je vous renvoie vers votre livre. Ça s'appelle « Ado, le décodeur ». C'est aux éditions Le Duc. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec 3 conseils qui permettent de faire le point sur sa situation professionnelle et le bien-être au travail. Et nous aurons aussi la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours, à 15h40, dans son rendez-vous, nous parlons de psychologie et de développement personnel. Aujourd'hui, nous évoquons le bien-être au travail et l'alignement professionnel, le fait de se sentir bien dans son job. L'été peut-être un bon moment pour y réfléchir. Bonjour Béatrice Moulin.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous notre coach aujourd'hui. Vous êtes la cofondatrice de Switch Collective. Alors si on vous demande 3 idées pour faire le point sur sa situation professionnelle cet été, vous nous dites quoi?
Alors, je vous dis déjà que qui dit été dit déconnexion, farniente, moment en famille ou entre amis. Et finalement, on a envie de réfléchir à tout, sauf à son travail. Et pourtant, ça peut être un excellent moment pour faire le point sur sa situation professionnelle. Déjà, parce que l'été, c'est le meilleur moment pour prendre du recul. On coupe et on coupe longuement. Donc, pour la plupart d'entre nous, on arrive à vraiment oublier son quotidien professionnel, son boss, ses collègues, ses projets, et du coup, à les envisager avec plus de distance. Souvent, ce qui nous agaçait au plus haut point avant de partir glisse sans problème pendant nos vacances à notre tour. Donc, c'est le moment idéal pour faire un bilan et se demander ce qui nous va, ce qu'on aime, ce qui nous enthousiasme toujours dans ce qu'on fait au quotidien, et puis ce qui ne nous va plus du tout.
D'accord.
Parce qu'avec le temps, on évolue. Nos envies changent, ce qui nous plaisait encore il y a un an peut aujourd'hui avoir complètement changé. Sauf que quand on est le nez sur le guidon, on a du mal à le voir. On est pris dans une dynamique, on avance, on ne se pose pas de questions. Donc l'été, c'est le moment parfait pour regarder bien en face là où on en est, et le challenger si besoin. Donc
d'accord.
Ça, c'est mon premier conseil.
Donc premier conseil, identifier ses zones de plaisir et ses zones de frustration.
Tout à fait, exactement. Deuxième conseil, c'est que l'été, c'est aussi un moment privilégié pour suivre ses envies. On sort des contraintes professionnelles, des « il faut » et du sentiment aussi de courir après les impératifs. Donc ça peut être l'occasion d'être attentif à quelles sont nos préférences naturelles. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a du temps pour nous? En termes de loisirs, mais aussi en termes de lecture, qu'est-ce qu'on va regarder comme série, comme documentaire, quels livres on a envie de lire, quelles activités on a envie de faire, quels sont nos élans quand on n'est pas conditionné par un environnement professionnel. Quelles sont aussi les activités où on perd complètement la notion du temps qui passe, où on est pleinement absorbé dans le pur plaisir de faire, parce que c'est derrière ces activités qu'il y a ce que le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow. Selon les études qu'il a réalisées, c'est en comprenant ce qui nous met dans cet état de flow, en identifiant quelles sont les activités qui nous font vibrer, qui nous donnent le sentiment d'être vivant, on va pouvoir les injecter plus régulièrement dans sa vie professionnelle et donc se réaligner et construire un projet qui nous épanouit durablement. Donc ça, c'est mon deuxième conseil.
D'accord, donc on repère voilà, les moments dans lesquels on est dans un état d'absorption totale au point qu'on oublie le temps qui passe.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, mon troisième conseil pour faire le point cet été sur sa vie professionnelle, c'est paradoxalement de ne surtout rien faire et d'y penser le moins possible. Et de déconnecter sans culpabiliser, parce que c'est bon pour vous, pour votre cerveau et donc pour votre vie professionnelle. Il s'agit de laisser place de ce qu'on appelle, nous, chez Switch, le vide fertile.
Prendre le vide fertile, c'est joli.
Exactement. Et c'est prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Bien au contraire. Parce qu'en laissant son cerveau au repos, c'est lui donner la possibilité de se vider de toutes les préoccupations qu'il pollue d'habitude, qui interfèrent dans notre réflexion, tous les tracas professionnels du quotidien qui nous empêchent de réfléchir finalement sur le long terme. Mais c'est aussi une occasion de le laisser se régénérer, pouvoir faire des nouvelles connexions, parce qu'à force de réfléchir sur un sujet, on finit par tourner en rond. On sollicite toujours les mêmes circuits neuronaux et la pause prolongée estivale permet au cerveau de s'oxygéner, de faire de nouvelles associations d'idées, d'être plus ouvert, plus imaginatif, plus créatif. Donc d'envisager des solutions qui sortent complètement du cadre. C'est souvent au détour d'une marche ou en allant se baigner ou au cours d'une discussion entre amis que d'un coup on a une idée très claire de ce qu'on aimerait faire et de ce qui nous appelle. Donc, pour moi, les vacances, ça peut être l'occasion pour un temps de sortir du dictat de la volonté et des objectifs et de laisser place à un processus d'émergence, d'écouter ce qui résonne vraiment, ce qui nous appelle, plutôt que ce qu'il faudrait faire, et de se reconnecter à ses élans, et ensuite de tester sans trop se poser de questions, juste pour voir si ça nous plaît vraiment. Et en fait, en la matière, le meilleur exemple à prendre, finalement, c'est de s'inspirer de nos enfants, parce qu'ils sont vraiment les maîtres absolus en la
du
matière.
Du vide fertile.
Exactement.
Damien Mascret a une question pour vous, Béatrice Moulin.
Oui.
Oui, j'avais une question par rapport à ce fameux état de flow, donc finalement, où on se laisse un petit peu absorber dans son activité, tellement elle est plaisante. Comment on bascule, comment on exploite ça sur le plan professionnel par la suite ?
Alors, l'idée, effectivement, c'est pas forcément de faire un raccourci clavier entre l'activité et de se dire « j'adore faire la cuisine, donc je dois devenir cuisinier », mais c'est beaucoup plus d'aller analyser ce qui nous a mis en état de flow, donc d'aller regarder quel était le contexte. Est-ce que j'étais seule en petit groupe ou avec plusieurs personnes? Qu'est-ce que je faisais concrètement? Quel était mon rôle? Qu'est-ce qui a donné du sens à cette activité? Est-ce que c'était parce que je cuisinais pour des amis, pour créer un moment convivial? Est-ce que c'est parce que je cuisinais avec des amis et du coup, ça a été un moment plaisant de convivialité, de partage? Est-ce qu'au contraire, c'est parce que ça m'a permis d'avoir un moment en solo, moi avec moi-même, et de pouvoir exercer ma créativité, de pouvoir justement imaginer une nouvelle recette? Donc, c'est aller chercher le pourquoi cette activité m'a mis en état de flow plutôt que de simplement rester à l'activité et de faire un raccourci clavier en se disant « bah voilà, j'ai aimé cuisiner, donc à la rentrée, je deviens cuisinier. Oui. » C'est pas du tout ça l'idée.
Merci beaucoup Béatrice Moulin pour tous ces conseils. On rappelle que vous êtes la cofondatrice de Switch Collective, un organisme de formation qui accompagne les transitions professionnelles. On peut retrouver les programmes que vous proposez sur switchcollective.com. Merci encore.
Legal vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être de 15h à 16h. Et voici l'heure de la chronique sexo avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui, vous vouliez nous expliquer comment trouver l'âme sœur.
Bah oui, parce que vous avez peut-être remarqué autour de vous des gens qui sont formidables et qui pourtant sont toujours seuls. Vous avez parfois du mal à comprendre, mais c'est pas possible qu'il ou elle ne trouve pas chaussures. Exactement, le mystère. Alors en fait, il y a parfois une ambivalence. C'est-à-dire qu'il va falloir doser ça, savoir si justement votre ami célibataire, enfin en tout cas qui reste seul, n'est pas ambivalent par rapport à ce qu'il veut, parce que au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que certains peuvent savourer finalement les avantages d'être seul, même s'il y a évidemment aussi des inconvénients et à ne pas être avec quelqu'un et des avantages à être avec quelqu'un. Donc cette ambivalence doit être, si vous êtes dans ce cas-là, que vous cherchez l'âme sœur et pensez que vous ne la trouvez pas, que ce n'est pas fait pour vous, faites une liste. Voilà, faites une liste de vos priorités actuelles déjà pour savoir quelles sont mes priorités aujourd'hui. C'est peut-être pas du tout d'ailleurs de trouver quelqu'un, de trouver l'âme sœur, de former un couple. Donc quand vous allez faire cette liste, vous allez aussi à côté mettre quelque chose d'important, c'est pendant combien de temps c'est ma priorité. Parce que peut-être qu'effectivement aujourd'hui je veux me consacrer à mon travail, disons que dans les 3 ans à venir je me mets à fond là-dessus. Pourquoi pas Il peut y avoir comme ça la liste qui va permettre de préciser. Ça permet de savoir que finalement il n'y a pas du tout de volonté de votre part d'être en couple. Peut-être que vous allez croiser l'âme sœur, comme on dit, mais en même temps, vous avez d'autres priorités. Or, trouver un partenaire, c'est un peu, comme le disait Judith Duportail, la journaliste dans L'amour sous algorithme, j'ai l'impression, finalement, de faire des entretiens d'embauche. Parce que c'est un peu ça, quand on fait passer en revue, bah oui, il faut quand même parler du fonctionnel. C'est qu'on est quand même dans une démarche où on va essayer de trouver si on peut faire affaire avec quelqu'un. Alors là, pour la vie et pour des choses peut-être encore plus sérieuses que le travail. Mais en tout cas, on est quand même dans cette démarche. Donc, considérez vraiment vos sentiments. Et vous pouvez même faire ce qu'on appelle le test du voyage dans le temps. Ça veut dire que vous vous posez et vous imaginez, par exemple, avec une personne que vous avez rencontrée, eh bien, j'imagine que je vais passer ma vie avec. Donc, vous vous laissez un peu imprégner.
Il faut repenser à de vieilles histoires ?
Non, une nouvelle histoire qui se crée. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous fermez les yeux et vous vous dites, j'imagine que je passe ma vie avec. Vous vous laissez un petit peu imprégner de ça et vous prêtez attention aux sentiments, à l'impression que ça vous fait. Et puis ensuite, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous vous dites, et si je reste seul ? Mm-hmm. Je reste aujourd'hui seul. Non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous aurez ainsi deux sentiments très différents. Vous verrez que là, votre intuition va vous renseigner, vous donner une piste vers ce qui est effectivement votre aspiration actuelle.
Alors, mais être conscient de ces ambivalences, c'est déjà une chose, mais ensuite, quand on veut passer à l'acte, où est-ce qu'on rencontre l'âme sœur ?
Alors, effectivement, parfois, certains vont dire, non, là, c'est pas là que je peux rencontrer quelqu'un, à tel endroit ou tel autre. C'est une mauvaise excuse. Il n'y a pas de bon endroit. Si vous partez dans l'histoire de chaque couple, vous verrez que ça peut être complètement surprenant, inattendu, l'endroit où on se rencontre. En gros, le premier secret du lieu de la rencontre amoureuse à long terme, c'est n'importe où. Voilà, c'est clair. Le deuxième secret, qui est quand même très important, et c'est ce qu'on fait à l'adolescence, on en parlait à l'instant, c'est d'augmenter le nombre de personnes qu'on rencontre. Il ne faut pas hésiter à rencontrer beaucoup de monde. Sortez, rencontrez, c'est statistique. Il n'y a pas une seule chaussure à vos pieds, il y a de nombreuses paires qui peuvent vous convenir. Donc il faut sortir, il ne faut pas hésiter, même s'il y a deux lieux qui s'y prêtent bien, c'est vrai, le travail, parce qu'on rencontre les gens et on les voit agir. Et puis aussi, quand on est présenté par des amis, parce que souvent, eux, ils ont le sens de, tiens, il pourrait lui convenir ou lui convenir, donc n'hésitez pas, là aussi, à le faire.
Est-ce que les gens seuls sont seuls parce qu'ils sont trop exigeants ?
Alors c'est vrai que quand on forme un couple, on recherche souvent les similarités d'abord. Donc plus vous avez investi dans un domaine, que ce soit un domaine intellectuel, que ce soit le domaine émotionnel, le domaine spirituel, et plus vous allez chercher quelqu'un qui lui aussi a investi beaucoup dans ce domaine. Donc d'une certaine façon, plus le choix risque de se restreindre. Cependant, restez ouverte. Là aussi, dernier conseil, vous pouvez faire une petite liste. Il faut faire à votre liste un petit peu des qualités que vous recherchez chez quelqu'un. Et quand vous avez fait cette liste des qualités requises, vous allez entourer celles qui vous paraissent vraiment essentielles, indispensables. Et quand vous aurez entouré ces qualités essentielles, indispensables, bah vous gardez les 5. Ça vous donnera un bon repère de vraiment ce que vous cherchez, tout en restant très fluide. Là aussi, s'il n'y a pas les 5, ce n'est pas grave. Tentez votre chance, vous ne risquez rien.
Merci Damien pour cet éclairage. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage avec vous tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain, le dossier du jour sera consacré aux remèdes de grand-mère. D'où viennent-ils ? Quels sont ceux qui fonctionnent vraiment ? Nous en parlerons avec une naturopathe. Merci à vous, Damien Mascret. On se retrouve donc demain à 15h.